Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir la journaliste et écrivain Anna Cabana pour son ouvrage « Juppé, l'orgueil et la vengeance », édité par Flammarion. Je salue également tous nos auditeurs qui nous rejoignent via le site mola.com. Je le sais, vous êtes de plus en plus nombreux. Bienvenue à tous. Vous nous présentez un portrait psychologique, politique, acéré, dit Le Monde.
En effet.
Le Monde a dit.
Alors si Le Monde a dit.
Donc si Le Monde l'a dit, donc caustique. Hein.
Empathique aussi.
Tout connu, la gloire, la débâcle, l'ascension, l'humiliation, et aujourd'hui qui est au zénith. Madame Cabana, avant de parcourir votre ouvrage, je souhaite vous poser deux questions. Finalement, du moins une, Juppé a été considéré comme étant probablement...
Tout le monde a oublié le probablement,
mais... Probablement le meilleur d'entre nous, cette sortie de Jacques Chirac... que l'on peut rappeler, et on pourrait la mettre en comparaison avec celle que Giscard d'Estaing avait donnée en parlant de Raymond Barre, le meilleur économiste de France. N'a-t-elle pas été une sorte de concentré, une sorte de vindicte vis-à-vis de Juppé?
Clairement, cette phrase a exposé, en tout cas Alain Juppé, à la jalousie de tout le microcosme politique. C'est-à-dire que Alain Juppé considère, Chirac a dit ça en septembre 1993. Et jusque-là, le parcours de Juppé était juste, un parcours ascensionnel parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fausses notes, il n'y avait pas eu d'affaires, il n'y avait rien du tout. Et Juppé considère que dès lors que Chirac a verbalisé sa préférence devant la classe politique, devant les journalistes, à ce moment-là, les chiens se sont lâchés, les affaires ont commencé de sortir, les jalousies se sont enflammées et il s'est retrouvé jeté en pâture à tous ceux qui pouvaient lui vouloir du mal parce qu'il était destiné, programmé pour être celui qui prendrait la succession de Chirac. Et ça suffisait, c'est-à-dire que c'est ce genre de choses en politique, et vous avez raison, le parallèle est très juste, c'est-à-dire qu'en politique, quand à la fois les hommes politiques recherchent les compliments, mais quand ils sont aussi forts que celui-là, ils vous exposent du même coup à être... à vous retrouver face à tous vos détracteurs et les jalousies, les envieux, les méchants, etc. Et Juppé, ça c'est vraiment c'est quelque chose que Juppé a ressenti. C'est-à-dire que ce soit sur... il pense qu'il a tout perdu, si vous voulez, de ce jour, quand Chirac a dit ça. Et alors ce qui est marrant, enfin moi ce qui m'avait fait sourire, c'est qu'on a tous oublié le probablement. C'est-à-dire qu'Alain Juppé, voilà. Virgule, le meilleur d'entre nous.
L'adjectif a été oublié.
Et en fait cet adverbe, il est celui qu'il a le plus en tête, c'est Alain Juppé. C'est-à-dire que Alain Juppé a en tête que Chirac n'a pas dit il est absolument le meilleur d'entre nous, il est évidemment le meilleur d'entre nous, il est naturellement le meilleur d'entre nous. Il n'a pas dit ça, il a dit probablement. Et Juppé, dans son orgueil, mais c'est un bel orgueil, hein, dans son bel orgueil, donc il a toujours considéré que finalement, cet adverbe qu'on avait tous oublié atténuait quand même un peu la portée de ce compliment. Voilà. Et ça, mais je trouve que ça en dit long, ça en dit long sur la personnalité d'Alain Juppé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'est-à-dire que faut voir une chose, c'est-à-dire que je suis rentrée dans le journalisme politique, entre guillemets, en 2001, et donc on était au moment où la trajectoire d'Alain Juppé avait déjà commencé de se briser. C'est-à-dire cette trajectoire qui était une des plus belles de la dernière décennie, elle avait commencé de s'abîmer. Il y avait eu l'affaire de l'appartement de la rue Jacob, et il y avait depuis...
L'histoire de Laurent.
Absolument. L'appartement de la rue Jacob, l'appartement de la ville de Paris, etc. Et toute cette polémique qui avait beaucoup affecté Juppé et qui lui avait d'ailleurs porté clairement tort. Et après, on avait eu la fameuse affaire des emplois fictifs. Et là, la mise en examen d'Alain Juppé commence en août 98. Donc ça fait aujourd'hui, vous imaginez quand même, hein, il faut voir un truc, c'est que ça fait presque 14 ans. On est et à ce moment-là, la trajectoire d'Alain Juppé se retrouve. Si vous voulez, il a le spectre. En 2001, il n'est pas encore condamné, mais il y a le spectre de cette affaire qui peut entraver sa carrière fulgurante. Et on a donc un homme qui ne peut pas être le premier ministre de Jacques Chirac réélu. Moi, je vous raconte quand le moment où je me mets à travailler sur ce personnage-là. Donc, il ne peut pas être le premier ministre de Chirac parce que il est visé par cette affaire. Et il va être le président de l'UMP, mais il est de fait dans les marges, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer le rôle de premier plan auquel il pouvait aspirer, celui qui lui était dû presque. Et donc il en nourrit une vraie souffrance. C'est-à-dire que si vous connaissez un peu Alain Juppé, vous imaginez bien ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui est très affecté. C'est-à-dire derrière une apparence faussement froide, à la vérité, il y a un homme qui est très facilement, qui est très susceptible et qui se blesse et qui endure des souffrances de façon très, très aiguë, c'est presque étonnant. Et donc à ce moment-là, on a donc cet homme qui ne peut pas jouer un rôle de premier plan et qui va se retrouver donc condamné une première fois en première instance de façon extrêmement infamante, pense-t-il. C'est-à-dire que là, on est encore dans une condamnation qu'il a mortifié et qui perd sa mère et qui doit demander à la présidente du tribunal une suspension, enfin une autorisation de suspension de séance pour pouvoir aller enterrer sa maman.
Mais ça fait partie des faits durs. Mais absolument. Les faits durs ont déjà commencé à l'époque de Matignon.
Ah bien sûr, il y a la fêlure de la dissolution, enfin et de l'impopularité gigantissime qui a été la sienne alors qu'il était. Il faut voir une chose en 95 quand Juppé arrive à Matignon et vous avez raison, il est un héros, mais je veux dire un héros du peuple de droite, mais aussi je veux dire un héros des médias, c'est-à-dire qu'il est extraordinairement populaire. Il y a des éditoriaux dans la presse de gauche au moment de son arrivée à Matignon et au moment de l'annonce du premier plan Juppé qui encense Alain Juppé, c'est-à-dire que qui regrette pour la gauche que le premier ministre de Jacques Chirac soit aussi bon et aussi porteur d'espoir pour son camp. Donc il était programmé. Ah, il est plus qu'une vedette, c'est-à-dire qu'il était, il était très clairement à ce moment-là, il était au sommet une gloire médiatique sondagière, hein, puisque c'était pas le Juppé supplicié dans les sondages. Là, il était un des hommes politiques les plus populaires de France. Et c'est clairement, c'est-à-dire que c'est ce passage-là de ce nirvana médiatique sondagier au moment où il est mis sur le banc de touche. Et puis ensuite condamné, et puis ensuite humilié, parce que c'est vraiment comme ça qu'il le ressent. Et moi, c'est à ce moment-là que je décide de faire un portrait de lui. C'est un moment où plus personne ne s'intéresse à lui, parce que sa carrière politique.
Est-ce qu'on peut faire juste une petite analyse politique? Il arrive donc en 95, il est Premier ministre, le président vient d'être élu. Est-ce qu'il n'aurait pas été normal de dissoudre l'Assemblée nationale? Et le problème est là. Et je me demande
mais c'est ce que pense
si
Juppé.
L'erreur de fond... Enfin, bon, moi, je n'ai pas discuté. Vous savez qu'ici, à Bordeaux, Alain Juppé, c'est 56,67% d'électeurs qui sont en faveur de lui. Il n'y a que regarder la ville de ce qu'il a réussi. Mais est-ce que cette erreur de non-dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas été une erreur de fond?
C'est pour Alain Juppé, c'est-à-dire que vu d'Alain Juppé, c'est la plus grosse erreur qu'il reconnaît avoir faite à son arrivée à Matignon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous lui en parlez, il vous dit qu'il n'a pas eu le... C'est-à-dire qu'il n'était pas assez préparé pour cette fonction-là, non pas préparé intellectuellement, c'est pas une affaire de programme, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, il était très préparé, mais il est passé directement de son job de ministre des Affaires étrangères à une campagne présidentielle et arrivé à Matignon, et quand il arrive, il n'a pas le courage de s'opposer à Chirac sur ce sujet-là. Voilà, c'est-à-dire que ça, lui, évidemment, il y pense, il se dit que d'avoir une majorité à sa main, une majorité parlementaire à sa main, ça serait quand même plus facile, d'autant qu'on a Philippe Séguin, il faut bien voir que on a Philippe Séguin à l'Assemblée nationale et ceux d'entre vous qui se souviennent de la rivalité, mais je veux dire sanglante entre ces deux hommes-là, peuvent imaginer à quel point ça a été une affaire très difficile pour Juppé de tenir sa majorité. Et clairement, il aurait eu envie de dissoudre. Il n'a pas osé affronter Jacques Chirac. Mais c'est une des questions aussi, c'est-à-dire sur la psychologie d'Alain Juppé. C'est un homme qui n'a jamais vraiment affronté Jacques Chirac. C'est un homme qui a servi Chirac loyalement et jusqu'au bout, je veux dire, avec une loyauté qui...
C'est terrible. Chirac lui dit, mon petit Alain, souriez. Mon petit Alain, servez un whisky à Pasqua.
Et à Pasqua, oui, c'est une scène qui a été...
C'est étonnant.
Oui, et en même temps, Chirac lui a tout donné. C'est-à-dire qu'on peut regarder ça des deux côtés. On a Chirac qui a choisi ce... C'est-à-dire que c'est Jérôme Monod au départ. Ça commence, leur histoire commence en 76, quand Jérôme Monod, donc le conseiller, le vieil ami de Jacques Chirac et son conseiller politique premier, qui cherche un normalien qui sait à peu près écrire et qui fait rentrer donc Alain Juppé.
Il était bien tombé quand même.
Il faut dire que là, il avait eu du flair, Jérôme Monod, et donc il fait rentrer Alain Juppé au cabinet de Chirac, Premier ministre. Et à ce moment-là, très vite, Chirac voit dans l'intelligence élastique d'Alain Juppé, dans sa loyauté, dans sa fidélité, quelque chose qui le fascine, Chirac. Leur relation est complexe. Et en même temps, il lui donne tout très vite, il le promeut, il lui donne de la responsabilité, il lui donne du pouvoir, et ça, je veux dire, ça a été un cadeau, c'est-à-dire que c'est... ensuite, évidemment, Juppé n'a pas comme le font les politiques, tué le père. Voilà, il n'a pas tué le père. Alors les politiques, on vous dit qu'il y a toujours dans un parcours politique pour arriver au sommet, c'est-à-dire sur la marche numéro 1, le moment où vous tuez celui qui vous a tout donné. Et bien Juppé a refusé de le faire. Voilà. Alors on peut considérer que c'est un manque de courage, on peut considérer aussi que c'est ce qui fait sa singularité et ce qui fait que c'est un homme politique qui n'a pas transigé sur certains principes comme la loyauté. Mais il faut voir aussi que pour un homme comme Nicolas Sarkozy, par exemple, pour ne pas le nommer, pour un homme comme Nicolas Sarkozy, le fait que Juppé n'ait pas tué Jacques Chirac est une erreur majeure, mais pas une erreur, une faute, une aberration, dire quelque chose qui est incompréhensible. C'est-à-dire, Sarkozy n'a jamais compris pourquoi Juppé, qui avait tout, n'est pas passé à l'acte, je veux dire, pour poignarder le père. Et ça, c'est une incompréhension, c'est-à-dire c'est une incompréhension dans la matrice comportementale entre Juppé et Sarkozy. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est cet homme qui était perclus de douleur au moment où je le découvre. C'est-à-dire que j'étais pas journaliste politique quand il était au fait de sa gloire. Donc je regardais ça, j'étais pitchoune et je regardais ça dans les journaux. Mais quand j'arrive dans l'univers journalistique, à ce moment-là, c'est un homme qui va mal, qui est amer, qui a de la rancœur, qui a des déceptions, qui considère que son destin s'est brisé, qu'il est en train de passer à côté de l'histoire qui devait être écrite. 2001. Non, là, on est en 2001, 2002, 2003.
2002.
Ouais. Ouais. Et donc je décide de faire un portrait de lui. Alors, c'était pas facile parce que c'était pas.
Marie-France Garraud dit, vous êtes.
Elle me dit, mais je comprends pas, écrire un livre sur Juppé, quelle barbe. C'est comme si vous me disiez, décrivez une tête d'épingle en 200 pages. Ouais, oui, ça c'est. Mais Marie-France Garraud, elle est quand même un peu revêche.
Son côté terrible.
Et puis son amitié avec Alain Juppé n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont été rivaux. Elle était conseillère de Jacques Chirac. Il était le fils préféré de Jacques Chirac. La rivalité était totale. Et donc elle l'a haï. Elle le hait encore.
Pas oublier que Marie-France Garraud, avec Juillet, ont eu la peau à l'époque de Chabon-Delmas.
Hein, ils ont eu la peau de tout le monde, mais pas de. Elle était redoutable.
La clique du château.
Elle était redoutable, mais elle n'a pas eu la peau de Juppé. Elle n'a pas eu la peau de Juppé, et lui a eu sa peau. Voilà comment. Donc après, elle se. Voilà,
oui,
elle
mais enfin, elle n'a pas manqué quand même. De distiller quelques méchancetés.
Ah, le poison, oui, ça, il n'y a pas de doute. Mais, voilà. Et à ce moment-là, Juppé, quand je commence manœuvre d'approche pour essayer de le convaincre et qu'il faut qu'il me parle, parce que moi, je ne veux pas faire un livre d'entretien du tout. Je ne veux pas faire une enquête, vous savez, une enquête à sensation ou une enquête pour essayer de déterrer des cadavres, que ce soit des cadavres politiques, des cadavres financiers, etc. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me parle. C'est-à-dire qu'il me raconte, qu'il me parle de Chirac, qu'il me parle de Villepin, de ses parents, de sa relation à Dieu, de sa relation à l'idée qui se fait de son destin, de la tragédie, de l'ambition brisée, etc. C'est-à-dire que j'ai envie de le faire parler. Je trouve que y a un défi là. Enfin, il y a un défi. Parce que c'est un homme qui n'aime pas parler de lui, pas comme ça. C'est-à-dire qu'il peut vous faire des théories sur tout, Juppé, mais pas vous raconter des choses de lui, quoi. Et donc j'essaie de le convaincre. Et ça a été une rude épreuve. Donc il commence par me faire passer des entretiens, mais je veux dire à la Juppé, hein, donc pour être bien sûr que je connais mon histoire de France, mon histoire politique, que tout est dans les rails, etc. et tout. Bon, alors une fois que je passe les premiers tests, parce que c'est vraiment ça t'est pas, il l'a pas formalisé comme ça, mais ça y ressemblait vraiment. Donc ensuite je rencontre son épouse pour avoir une validation ultime, et puis in fine j'ai une validation. Juppé me dit, écoutez, ok, c'est bon, vous m'avez convaincu, on fait le truc. Et puis on commence à parler, et lui, on est juste avant, alors là on est en fin 2004, début 2005, donc on est juste avant son départ pour Montréal, et c'est vraiment le moment où il est allé le plus mal. Et donc là, vraiment le plus mal. Alors, il a perdu sa maman, il se sent tout seul.
Ça a été terrible.
Il se sent tout seul. Villepin est nommé à Matignon contre son avis par Jacques Chirac. Enfin, c'est-à-dire que Juppé soutenait la nomination de Nicolas Sarkozy à Matignon et Chirac nomme Villepin. Les amis de Juppé sont virés du gouvernement. Il est tout seul dans un petit bureau à la présidence de l'Assemblée nationale. Oui, exactement. On lui concède un petit bureau sous les toits à l'hôtel de la C. Donc, il va pas bien. Et on a donc des entretiens à ce moment-là, et il trouve que les questions que je lui pose sont trop perso. Mais quand perso, ça veut pas dire, ça veut pas dire de l'intimité, de l'ordre de la vie privée, savoir maîtresse, machin. C'est pas ça. Le perso, c'est son chagrin, sa souffrance. Enfin, c'est ça. C'est sur ce ressort-là du personnel. Et il me dit, écoutez, je peux pas. Finalement, je peux pas. Je me suis trompée. J'ai cru que je pourrais rester à distance de vos questions et répondre à ce que je voulais. Et en fait, vous voulez me faire parler de choses qui me font mal et je peux pas. Et donc rideau. Mais il le dit de façon extrêmement extrêmement sèche, extrêmement brutale, extrêmement dure. C'est-à-dire qu'autant il m'avait accordé sa confiance pendant des mois, et autant là, c'est-à-dire que tout ce qu'il m'avait donné, si vous voulez, le reprend de façon extrêmement violente, violente. Dire que ces mots sont pas violents, ces gestes sont pas violents, mais l'absence de mots, l'absence de gestes, enfin la brutalité de la décision qui survient comme ça a été un, c'est-à-dire que ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand Juppé est gêné, il peut être très dur. Voilà. Quand il est gêné et quand il faut couper dans le vif, alors là, vous avez un homme qui...
Et il vous sort,
qui
en train de dire, sans rancune.
Voilà. Et à la fin, donc, il me dit, mais sans rancune, hein, sans rancune. Et c'était... Enfin, voilà, c'était une scène, si vous voulez. C'est-à-dire que s'il était... Enfin, voilà, s'il était allé bien à ce moment-là, c'était juste insoutenable. Il allait tellement mal qu'il y avait quelque chose de... Voilà, c'était très romanesque, au fond, parce que vous aviez un homme extrêmement douloureux qui vous jetait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, qui vous jetait, et avec en plus lui qui était habité par la rancœur et la rancune, qui vous dit en vous congédiant et en vous montrant la porte de son bureau, ben, sans rancune, Anna. Et ensuite, donc moi, j'ai pas désespéré, parce que ça, je trouvais que c'était d'autant plus romanesque qu'il... Enfin, voilà, que mon sujet se dérobait, si vous voulez. Hein. Donc, on a... Et donc, par ailleurs, j'étais journaliste, et donc, je vais au Québec pour un déplacement de Villepin, Premier ministre. J'en profite pour voir Juppé, et là, donc c'est quelques mois plus tard, et là, je le convainc, sans le convaincre vraiment, enfin, en tout cas, il a envie, finalement, c'est-à-dire qu'il commence d'aller un peu mieux à Montréal, il est sorti du trou noir parisien, et donc, parce que Juppé, par exemple, sur le trou noir parisien, juste une parenthèse, il n'a pas pu voter au référendum de 2005, il était interdit de vote. Hein, donc inéligible, mais interdit de vote. C'est un homme qui n'a pas pu voter, mais ça, il faut imaginer. Je veux dire, cet homme-là, il était, mais ça le rendait malade. Il était pétrifié de douleur et de colère contre le monde entier de ne pas pouvoir exercer son droit de vote. Et quand on connaît un peu Juppé, on peut imaginer que ça prend des proportions chez lui qui ne sont pas forcément communes. Et donc, quelques mois plus tard, à Montréal, il a pris un peu de champ par rapport à tout ça, et donc là, on commence vraiment à rebosser, et après, il me redira plus non. Donc, l'affaire se met vraiment sur les rails, et je l'ai vu donc à Montréal, et puis à son retour ici à Bordeaux. Quand après, la première chose qu'il fait...
Le séjour à Montréal, pas terrible, quand même.
Non, attendez, le séjour à Montréal, épouvantablement... C'est-à-dire qu'à la fois ça lui fait du bien parce qu'il prend du champ par rapport au cœur nucléaire de ce qu'il a raté, c'est-à-dire le pouvoir politique à Paris. Et en même temps, il y a des soirs où il me racontait qu'il donnait des cours, il habitait Montréal, et donnait des cours à Ottawa. C'est-à-dire qu'il avait deux sessions de cours dans deux lieux différents. Et une fois par semaine, il allait à Ottawa et il devait revenir donc sur l'autoroute. Et il se retrouvait, alors à Montréal, à 20h, il n'y a plus rien qui est ouvert. Et il se retrouvait dans des McDo tout seul, à 22h, en train de bouffer un hamburger. En regardant ça et en se disant, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Et oui, voilà, c'est-à-dire que, mais malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a la difficulté pour lui aussi. À Montréal, il y a un truc marrant, c'est que les gens parlent doucement, et donc il y a les accents qui se traînent, et puis ils disent toujours, ça va pas être long. Ça va pas être long. Et vous imaginez Juppé, quand il demande un truc, même dans un magasin, et qu'on lui dit, non, non, monsieur, ça va pas être long. et donc, vous, voilà, c'est-à-dire que c'était, si vous voulez, ça lui demandait de violer un peu sa nature. Voilà. Je pense que ça lui a pas fait de mal. Je pense pas que ça allait changer. Voilà, ça c'est. Je pense pas que ça allait changer. Je ne crois pas que ça allait changer. Je crois pas du tout toutes les conneries. Là,
il a dit à son retour qu'il était changé, non, mais à mon avis.
Non, il a pas été changé. C'était pas un mauvais bonhomme au départ. Donc je veux dire, non, mais c'était pas un mauvais bonhomme. Il a juste. C'est-à-dire que peut-être qu'il sait, si vous voulez, il a peut-être compris qu'au fond, il y avait besoin de dire plus de choses aux gens de lui-même. Et juste de, au fond, voilà, d'ouvrir plus de choses, c'est-à-dire que il y a pas de changement profond. C'était pas un type froid, un Colin froid. Il n'est pas devenu soudainement un homme souriant et chaleureux qui vous tape dans le dos. Non, ça non, clairement pas. Mais en même temps, il avait pris de la force, et donc quand il revient, il revient fermement décidé à reconquérir Bordeaux. Mais ça, vous le savez mieux que moi. Donc il demande la démission du conseil, il se fait réélire, et là c'est-à-dire qu'il y a une première renaissance, c'est-à-dire que les Bordelais lui refont confiance. Alors il dit, voilà, il est le, enfin là, il parle du peuple de Bordeaux, hein, le peuple de Bordeaux lui redonne sa confiance, et ça lui permet, ça le lave pense-t-il de l'affront, si vous voulez, des attendus, notamment du jugement de première instance. Vous savez, Juppé qui avait trompé la confiance du peuple français. Eh bien, c'était pour lui...
Qui était un jugement terrible.
Un jugement politique. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, c'est un jugement politique.
Un jugement incroyable.
Clairement, ils avaient fait un jugement politique. Il y avait... Mais si vous voulez, quelqu'un d'autre que Juppé ne l'aurait pas pris personnellement. C'est-à-dire que pas comme ça. C'est-à-dire que ça n'est jamais que
un attendu de jugement.
Il l'a pris de plein fouet et il l'a pris perso. C'est-à-dire que c'était lui, Alain Juppé, dans la chair de sa chair, qui avait trompé le peuple français. Et il fallait prouver que le peuple français l'aimait encore. Mais c'est un homme qui veut encore prouver ça aujourd'hui. Hein. Je veux dire, ne croyez pas que c'est fini. Non, on est encore là-dedans. Et donc, les Bordelais lui refont confiance. C'est le début de la reconquête pour lui, mais c'est pas une reconquête facile parce que ça, il est tiraillé entre le goût qu'il a pour cette ville, mais que vous connaissez, et le goût qu'il a pour le pouvoir parisien.
Des législatives.
Ah oui, non, mais ça, attendez, j'espère que ce qui se passe, il a très envie de reprendre du service, comme il dit, hein, reprendre du service. Ça veut dire reprendre du service gouvernemental, reprendre du service au sommet de l'État. Et donc là, il y a la campagne. Hein. Nicolas Sarkozy est investi par l'UMP et Alain Juppé prononce, c'était le 14 janvier 2007, donc un discours d'une très grande élégance, un très grand désintéressement, c'est-à-dire que très étonnant. C'est-à-dire Juppé très...
C'est le 21 décembre.
Voilà. Non, là, on est le 14 janvier. Qu'il est venu, en effet, il y a eu le 21 décembre ici, mais qui n'était pas... Là, c'était pas très... C'est-à-dire qu'il a eu du mal, Juppé, à rallier Sarkozy. C'est-à-dire que c'était... Il y a eu un moment, il y a eu des semaines difficiles où Chirac lui demandait de ne pas le faire, d'attendre le dernier moment, d'être le dernier à soutenir Sarkozy. Et Sarkozy le pressait de le faire et Juppé se tortillait un peu. Donc, il disait des mots qui étaient interprétés par les uns comme ça, par les autres comme si, et qui n'étaient pas vraiment... C'était pas un grand moment pour lui, parce qu'il savait pas... Il n'était pas complètement maître de ce qu'il voulait... De ce qu'il voulait dire et il avait envie de soutenir le candidat de son camp et en même temps c'était son ennemi de 30 ans donc voilà
il 30 ans de méfiance vous dites méfiance vindicative
oui parce que c'est
30 ans
en fait ils se sont tout de suite reniflés comme des concurrents potentiels c'est-à-dire qu'il y avait avec en plus non seulement des concurrents potentiels mais avec une antinomie de caractère qui faisait qu'ils avaient du mal à se comprendre. C'est-à-dire que chacun était ce que l'autre n'était pas. Dans du talent dans les deux cas, grand talent dans les deux cas, mais aux antipodes. Vous avez d'un côté un homme avec une vraie limpidité d'esprit, parce que c'est Juppé, c'est ça, je dirais, avant même l'intelligence, etc. C'est un homme qui a une vraie limpidité d'esprit, très grande rapidité, qui est un serviteur de l'État. C'est un des derniers. Non. Ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, hein, mais c'est un des derniers serviteurs de l'État, un des derniers hommes qui est entré dans le service de l'État comme on entre en religion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça chez Juppé. Et de l'autre côté, vous avez un homme avec une vista, un culot fou, une capacité, je veux dire, d'attraper la conviction de son interlocuteur dans un tête-à-tête et de c'est-à-dire que de l'emporter presque physiquement. Sarkozy, pour ça, c'est un magicien, c'est de l'âme, pour vous convaincre de ce que vous n'imaginiez même pas pouvoir penser, même un instant, l'instant d'avant. Voilà. Et à l'inverse, Juppé se raidit, se fiche, se braque et donc ils ont joué à ça pendant 30 ans avec Chirac en arbitre.
La pierre, oui, justement,
avec Chirac.
C'est ce que j'allais dire.
Oui.
La pierre, vous dites,
si,
la pierre angulaire, c'est Chirac.
Ah ben c'est la relation à Chirac.
Entre les deux, il y a une sorte de méfiance et de jalousie.
Bien sûr, parce qu'au fond, vous savez, on est vraiment dans des réflexes entre deux... Enfin, voilà, on a deux fils, deux héritiers possibles de...
C'est des héritiers.
Oui, deux héritiers potentiels, parce que les deux meilleurs, enfin, parmi les meilleurs, il y a quand même Séguin. On peut pas... Il y a Séguin, mais une fois que Séguin, si vous voulez, est un peu... mis sur la touche à ce moment-là, il n'y a plus que Juppé et Sarkozy. Et là très clairement, c'est un combat de fils. Enfin, il y a le fils préféré, le fils un peu bâtard, parce que c'est comme ça que Sarkozy parle de lui. Hein, c'est pas une expression de moi. Sarkozy dit « je suis le bâtard ». Donc, je suis le bâtard, l'autre, il est le préféré. Et c'est à celui qui va réussir à convaincre que, qu'en fait, le meilleur et le plus aimable, c'est lui. Et ça donne, bah, ça donne mille et une histoires depuis pendant 30 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ça me fait sourire de voir les assauts d'amabilité, n'est-ce pas, que l'un dit sur l'autre. C'est-à-dire qu'on on a tendance à oublier toutes les horreurs, mais qui ne sont pas des horreurs si vieilles. Hein. Juppé, il disait encore des choses très dures sur Sarkozy, et pas plus tard qu'il y a 2 ans. Je veux dire, c'est pas... Et même aujourd'hui, il dit toujours, quand il dit du bien de Sarkozy, il dit « je suis le premier surpris quand même à... je suis le premier surpris ». Non mais il le dit publiquement là, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dit du bien de Sarkozy, il a sorti ce bien en disant « je suis vraiment très surpris, c'est vraiment une surprise pour moi ». Et l'autre, Nicolas Sarkozy, quand il entend ça, ça le rend fou. Donc je veux dire, ils n'ont pas fini de se titiller. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu une cohabitation très harmonieuse finalement, parce qu'elle donne à Juppé le sentiment d'avoir encore une utilité publique, et qu'il avait vraiment besoin de, ben, il avait vraiment besoin de se rassurer sur le fait qu'il pouvait encore servir son pays. Et comme Sarkozy lui a vraiment confié des responsabilités, il lui a fait de plus en plus confiance, et ça l'a, si vous voulez, ça l'a rassuré, ça lui a permis d'avoir le sentiment de prendre toute sa dimension, mais en même temps, il n'est que le numéro 2. Et ça, c'est voilà, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un homme qui était programmé pour occuper la fonction suprême et qui n'occupe que la fonction derrière.
Il reste quand même pas mal, quand même, la fameuse phrase, enfin, je voudrais quand même la citer, « Si, pour des raisons qui aujourd'hui sont hautement improbables et que je ne souhaite pas,
oui,
Nicolas Sarkozy n'étant pas en mesure de se présenter, eh bien voilà, je tenterai ma chance. »
Ah bah bien sûr.
Cette phrase reste quand même.
Ah non, mais ça, de toute façon, il pourra jamais s'empêcher de dire ça. C'est-à-dire qu'on est... Vous savez, je crois qu'il y a vraiment, chez les hommes qui se sont préparés depuis toujours à cette... Bah, à cette conquête-là, il n'y a pas de renoncement. Il a renoncé à rien, Juppé, bien sûr qu'il a renoncé à rien. Mais il est lucide, alors il voit bien que, a priori, c'est l'autre qui va y aller. Mais si vous voulez, il peut pas vous dire « c'est bon, c'est fini pour moi, mon tour est passé, les trains de se... Enfin, il n'y aura plus de train pour moi, c'est ça, non. »
En politique,
ça, non. Non,
il ne
peut pas vous dire ça. Et moi, j'étais avec lui, alors ça a été une scène assez étonnante, plus que ça. J'étais avec lui en Haïti, dans la nuit du 14 au 15 mai dernier, la nuit de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Donc on est en Haïti, on est à l'heure de New York, aucun décalage horaire. Et donc, quand, bah oui, c'est-à-dire qu'on est, c'est pas le milieu de la nuit, hein, il est 19h, heure d'Haïti, et les premières infos tombent, et il y a un conseiller de Juppé qui lui met sous le nez un papier pour lui signifier que, a priori, Dominique Strauss-Kahn a été arrêté. Là, Juppé commence par jeter son conseiller en lui disant « mais arrêtons ces conneries, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est une blague, mais sur le mode « ne me faites pas perdre mon temps, je suis là pour bosser, quoi ». Et l'autre, son conseiller, lui insiste un peu en mettant un petit peu de tension dans ses yeux pour que Juppé ait envie d'aller voir ce qui se passe dans cette histoire. Et il rentre dans une voiture, il en sort 10 minutes plus tard, et là... Mais il faut me croire, c'est-à-dire qu'il avait les joues roses. Il souriait un sourire jusqu'aux oreilles, les joues roses. Et moi, j'ai eu un peu peur parce que je veux dire, Juppé, c'est pas un type qui se réjouit du malheur des gens. Donc, il a beaucoup d'autres défauts, mais celui-là, non. Et donc, je me dis, mais c'est quand même étonnant parce que il peut pas être exulté parce que ce type se retrouve. Arrêter. Et en fait, c'est pas ça qui le faisait sourire. C'est qu'en fait, en politique, tout est possible. C'est ça qu'il m'a dit. Il me dit, mais au fond, ça veut dire un truc, ça veut dire que tout est toujours possible, que la roue tourne, que les situations inenvisageables peuvent exister, et que donc rien n'est figé, rien n'est fixé en politique, tout est possible. C'était ahurissant parce que c'était, il y avait quelque chose de, il était guilleret, il était habité par quelque chose qu'il a toujours eu besoin d'entendre, quoi, qu'en fait tout est possible. Et alors après il se marrait en disant, mais au fond qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme scandale à droite? Et ouais. Mais il y croyait pas vraiment. C'est-à-dire que c'était sur le mode de du tout est possible. Alors si tout est possible, tout est possible sur tous les terrains et notamment enfin le sien. Mais c'était pas un souhait de truc affreux qui pouvait survenir. C'était le fait que, alors peut-être que son destin politique n'était pas sur la dernière marche de son destin politique. Peut-être qu'il pouvait encore jouer un rôle de président de la République. Ou alors quand il dit que en 2017 il n'aura que 72 ans. Donc oui, mais là encore, dire c'est voilà, on sent chez cet homme à la fois une hyper lucidité sur le fait que il a raté des choses et il a pas eu l'histoire politique qu'il pensait avoir ou qu'il était programmé pour avoir, et donc il y a une lucidité même avec teintée d'amertume, et de l'autre côté vous avez une espèce d'excitation assez puéril finalement, mais de se dire au fond tout est possible, je peux peut-être que les astres ont décidé que ça pouvait être moi, et ça lui a plu. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez vu l'œil malicieux qu'il a eu même à la télévision quand sur le plateau de Pujadas, c'était à la fin septembre dernier, quand il a fait sa grande émission sur France 2, et au fond, c'est-à-dire que quand on lui dit « mais vous pourriez être un recours », etc., il dit « non, mais ses yeux disent oui ». C'est-à-dire que vous sentez, c'est-à-dire qu'il y a la malice, il a besoin de cette malice, quoi. Clairement, il est... Moi, c'est ce qui m'a plu, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'a plu, c'est que j'ai trouvé que c'était un personnage de roman. Alors lui, ça lui a pas plu que je le dépeigne comme un personnage de roman, parce que
c'est pas le genre.
Il aime pas être un personnage de roman, Juppé. Hein. C'est pas son truc. Il préfère se dire que c'est un être sans, qui n'est pas un tragédien. Que moi j'ai aimé ça. C'est vraiment comme ça que j'ai essayé de le faire parler. Donc c'est vraiment qu'il y a eu on a eu une quarantaine d'heures d'entretien, peut-être même plus, étalées sur entre 2004 et 2011, en fait, au moment où j'ai bouclé le... Je vous parle, en fait, les entretiens, oui, entretiens stricto sensu pendant des années. Et puis ensuite, quand il est revenu aux affaires, comme on dit, hein, donc en novembre 2010, à ce moment-là, je l'ai suivi dans des déplacements partout pour voir quel plaisir il prenait à être le ministre de Nicolas Sarkozy.
On n'est pas dans une situation, une sorte de cohabitation.
Ah si,
non, entre le ministre d'État et le président.
Et avec en plus François Fillon entre les deux, qui était l'ancien ministre de Juppé, chargé de la poste.
Secrétaire d'État chargé de la poste.
Non, mais il faut quand même imaginer que bon, voilà, on était pour Juppé, c'était pas évident. D'ailleurs, si vous vous souvenez, ça n'a pas été évident. Et ensuite, vous me posiez la question tout à l'heure, la première fois qu'il revient au gouvernement, donc on est en 2007, et là, il va devoir en partir un mois après, parce qu'il est battu aux législatives à Bordeaux. Et si vous voulez, pour cet homme-là, c'était la troisième, s'il a été frappé trois fois, c'est-à-dire qu'on peut frapper une première fois en 97, la dissolution, frapper une seconde fois par la condamnation donc judiciaire en 2004. Et là, c'est carrément les électeurs de son territoire qui, alors qu'il a accepté de revenir au gouvernement servir son ennemi de 30 ans dans un gouvernement dirigé par François Fillon, son ancien ministre des Postes, et que donc il a fait tout ça, c'est-à-dire que c'est ce qui pour lui n'a pas été un chemin facile, et là il se retrouve fauché par le désamour du peuple, parce que c'est comme ça qu'il l'a vécu.
Il l'a très mal vécu.
Ça vraiment c'était l'enfer, quoi. Il s'est cru maudit, il a pensé que qu'en fait, c'était la fin pour lui. Et ce qui est fou, c'est le plaisir qu'a pris Nicolas Sarkozy à ce moment-là. Parce que pour le coup, moi, c'est dans mon job, moi, je suis journaliste politique au point, et donc je suis Nicolas Sarkozy. Et donc je me sers Sarkozy à ce moment-là, mais il était, c'est-à-dire que d'avoir fait revenir Juppé et de le faire partir un mois après parce qu'il avait été défait aux élections législatives, il y avait pour Sarkozy quelque chose de jubilatoire et que Juppé a bien senti et qui a quand Juppé est revenu. Donc à Bordeaux, à ce moment-là, entre juin 2007 et novembre 2010, sa deuxième entrée au gouvernement de Sarkozy, là vous avez pu suivre les petites perfidies qu'ils se sont échangées l'un et l'autre, donc sur l'OTAN, sur la taxe professionnelle, sur quoi d'autre, on a eu le débat sur l'identité nationale, sur le tout sécuritaire, etc. C'est-à-dire que Juppé, via son blog et via les petites phrases échanger avec des journalistes, lancer des piques. Sarkozy l'appelait en hurlant et donc ils ont joué à ce petit jeu pendant quelques années et jusqu'à ce que Sarkozy aille chercher Juppé, mais en allant vraiment le chercher, parce que là pour le coup il y avait le rejet dont Sarkozy était l'objet donc dans la population française faisait que il avait besoin d'une caution. Une caution de sérieux, de service de l'État, de tout ce qui n'était pas, quoi. Et à ce moment-là, il va voir Juppé et il insiste suffisamment pour que Juppé se sente déshumilié, si vous me permettez ce néologisme. C'est-à-dire que ça le rehausse un peu de voir à quel point Nicolas Sarkozy est à sa merci. C'est comme ça qu'il a eu besoin de se raconter l'histoire pour accepter de rentrer dans le gouvernement une seconde fois. Et là, il accepte donc le ministère de la Défense parce que Michel Debré était revenu après avoir été Premier ministre avait accepté le ministère de la Défense et que donc Juppé, qui se cherchait un précédent dans l'histoire politique, se dit que ce précédent-là, Debré n'est pas déshonorant pour lui et que ça lui permet de reprendre du service. Et là, conjonction dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à la fois il a été maudit la fois d'avant, mais cette fois-là, c'est pas une malédiction, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il est porté par un petit dieu politique qui fait que c'est un drame pour Michel Alliot-Marty au Quai d'Orsay qui oblige Sarkozy à démissionner Alliot-Marty parce que c'est quand même ça qui s'est passé et qui permet à Juppé d'arriver au ministère des Affaires étrangères 3 mois après être arrivé au gouvernement en héros. C'est-à-dire en héros, alors qu'il y serait arrivé, si vous voulez, en novembre 2010 au Quai d'Orsay. Bon, il serait revenu au Quai d'Orsay, là où il avait été bien et bon, mais c'était pas...
C'était une sorte de programmé.
Voilà. Tandis que après cet intermède à la Défense, le fiasco à Alliot-Marty, le fiasco de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, il y a un appel d'air et Juppé arrive dans un truc où il est encensé. La presse, je ne sais pas si vous vous souvenez, la presse en fait le vice-premier ministre de François Fillon. Je veux dire, c'est le type qui va sauver Nicolas Sarkozy. Et là, Juppé, il a des ailes, quoi. Il se sent pousser des ailes, et ça lui permet de vivre plutôt, plutôt bien. C'est-à-dire qu'avec un vrai sourire, son job, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre du plaisir à être ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, et il en est le premier surpris. D'être aussi heureux de faire ça. Ah non, ça il dit.
Il avait toujours dit.
Alors ça c'est un truc, ça il déteste Juppé faire les déplacements avec Sarkozy. Alors que ça se faisait beaucoup jusque-là que le président de la République parte en voyage officiel avec son ministre des Affaires étrangères.
Il y a eu des tentatives.
Il y a eu non mais
le coup de BHL
Juppé ça l'a rendu fou. Ça a été un moment terrible parce que ça a été une petite perfidie de Nicolas Sarkozy. BHL et Juppé ne s'entendent pas, mais ça remonte à la Bosnie. Ça n'a pas commencé sur l'affaire de la Libye. Et donc il y a des antécédents entre eux et très peu d'atomes crochus. Et donc il y a chez BHL une envie d'être le ministre des Affaires étrangères bis, très clairement. Et pour Juppé, qui déteste ce qu'il appelle la diplomatie parallèle, qui considère que tout doit passer par son contrôle, les ingérences de Bernard-Henri Lévy étaient juste intolérables. Et il y a eu un moment terrible où Juppé était à Bruxelles pour un sommet européen et Sarkozy reçoit BHL avec les émissaires libyens à Paris, à l'Élysée. Quand ils sortent de l'Élysée, des déclarations sont faites sur le perron de l'Élysée pour dire que le président de la République reconnaît le Conseil libyen de transition. Et là, c'est pour Juppé. C'est-à-dire, Juppé apprend ça sur une dépêche de l'AFP à Bruxelles. Et il est, c'est-à-dire qu'il est fou de rage. Il appelle Sarkozy en lui disant que c'est la première et la dernière fois et que s'il y a une nouvelle humiliation de ce type, il claquera la porte.
On peut le comprendre. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que c'était pas tolérable pour lui. En même temps, ça a amusé pas mal Sarkozy de voir Bernard-Henri Lévy s'agiter pour. Ça permettait à Sarkozy de dire à Juppé, tu es le sauveur de la diplomatie française, mais quand même, faut pas exagérer. C'est-à-dire que c'est quand même moi qui ai le pouvoir.
J'ai quand même
le pouvoir de t'embêter encore. Et c'est moi le président, quoi. Et ils se sont. Si vous voulez, il faut voir qu'on est dans un rapport de force. Ça s'appelle comme ça, il n'y a pas d'autre mot. Il y a un rapport de force entre les deux. Alors, ça peut être un rapport de force pacifique quand ça se passe bien. Et puis, parfois, ça se durcit, ça se tend. Et chacun des deux doit montrer que sa virilité est intacte et qu'il faut compter avec lui. Voilà. Donc, il y a dans leur rapport quelque chose, moi, qui m'a semblé très romanesque. Alors, là encore, c'est-à-dire que moi, j'ai raconté dans le bouquin. Je raconte vraiment, je reprends les 30 ans de relation entre ces deux hommes-là pour avec à la fois des petites histoires et des grandes histoires, quoi, des petites anecdotes, des petites situations et en même temps là, des grandes histoires. Il y a une autre relation que je trouve intéressante, c'est celle de Villepin et de Juppé. On n'en parle pas beaucoup dans les journaux parce que c'est moins intéressant que l'histoire Sarkozy-Juppé, bien sûr. Mais Villepin-Juppé, c'est Villepin au départ, c'est le collaborateur de Juppé. Au Quai d'Orsay, il est son directeur de cabinet. Donc, entre 93 et 95, il est le dire-cap de Juppé au Quai d'Orsay, et ils vont mener tous les deux, le tandem va être un des tandems qui réussira le mieux au Quai d'Orsay, et tellement bien que Chirac reconnaît mille et une vertus à Villepin, et en fait son secrétaire général en 95. Et à ce moment-là, Villepin se dit qu'il peut lui aussi conquérir dans le cœur de Chirac une place presque aussi grande que celle occupée par Juppé.
Et en plus, il était à l'Élysée.
Voilà,
près du président.
Absolument, la proximité géographique et une proximité politique, c'est-à-dire que fait que Villepin va grignoter des parts d'affection de Chirac au détriment, espère-t-il, de Juppé. Et ça a été un combat qui n'a pas du tout été raconté, parce que même Juppé ne s'en est pas rendu compte. Juppé a pris conscience de ça très tardivement. C'est-à-dire que le fait que Villepin s'était imaginé d'être son remplaçant et le moment où Juppé en prend conscience, c'est bien trop tard. C'est-à-dire que quand Juppé est condamné judiciairement, à ce moment-là, Villepin dit, mais il le dit à des amis à lui, la voie est libre, maintenant c'est moi. Maintenant, c'est moi. Et quand Villepin arrive au Quai d'Orsay, ce qui se passe en 2002, 2002. Donc en 2002, ouais. Villepin est au Quai d'Orsay, et ben à ce moment-là, c'est lui. C'est-à-dire qu'il a pris la place. Il marche sur les traces de Juppé, à la place de Juppé. Et Villepin considère que Juppé, c'est fini. C'est-à-dire que c'est lui qui... C'est lui qui va porter l'espoir de la Chirac-y. C'est-à-dire que si l'anti-Sarkozy, puisque on est dans ce combat-là, à ce moment-là, entre Chirac et Sarkozy, et que l'anti-Sarkozy, par excellence, c'est lui Villepin, et que Juppé est mort. Et donc ça donne lieu à des échanges. Alors comme on a deux personnalités, là, pour le coup, Juppé et Villepin, qui font les trucs à fleur et moucheté, ça donne des trucs un peu un peu amusant parce qu'ils s'envoient des petites vilainies, donc l'un et l'autre, et ça continue, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, Villepin vous dira que Juppé est un vendu. Que Juppé est un vendu parce qu'il a accepté de servir l'ennemi. Vous savez, Villepin se voit comme un résistant, résistant vraiment au sens de la résistance, quoi, dans un pays occupé. Et de l'autre côté, vous avez celui qui a accepté de collaborer. Voilà. Et donc, on a l'histoire de deux fauves.
Quand même envoyé l'immaturité affective et politique.
Ah ben ouais.
Je veux vous dire,
il n'est pas.
Ça y va pas.
Non, mais vous connaissez Dominique de Villepin. Hein. Vous imaginez quand Dominique de Villepin se lâche. Et bien, quand il le fait sur Alain Juppé, alors en plus, il dit que Juppé, en fait, l'a déçu. Juppé l'a déçu, finalement, qu'il n'a pas de courage. Le truc de Villepin sur Juppé, c'est. Et pardon, c'est la vulgarité. C'est Villepin, c'est pas moi. C'est il n'a pas de couilles. Voilà, le vrai, c'est-à-dire que la phrase par excellence, c'est-à-dire que Juppé, quand Villepin parle de Juppé, c'est il vous dit ça, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de couilles. Juppé, c'est sauf que de l'autre côté, Juppé considère que Villepin, c'est un fou. Donc c'est un fou qui n'a aucun avenir politique parce qu'il n'est pas un homme politique. Donc ça donne des tensions et des histoires. Voilà. Et sinon, il y a une autre.
Enfin, Juppé s'en sort.
Et
quand Chirac dit oui, je voterai Hollande, mais Juppé reste quand même.
Sauf si Juppé se présente. Non, mais ça a été génial parce que ça a humilié Villepin au dernier degré. Vous vous souvenez donc la phrase exacte, c'est ça. C'est je voterai Hollande, sauf si Juppé se présente. Les médias n'ont repris que la première partie. Je voterai Hollande. Et alors, grande polémique, Chirac, voter Hollande, est-ce qu'il a perdu la tête, etc. Mais il y a un type qui savait parfaitement que Chirac n'avait pas perdu la tête, c'est Villepin. Parce que précisément, le fait qu'ils disent sauf si Juppé se présente, mais ça veut dire qu'il avait toute sa tête, parce que c'est l'équation, elle était exactement celle-là. Et ça veut dire qu'au final, dans la lutte, si vous voulez, la rivalité entre Villepin et Juppé pour être celui qui allait être le préféré de Chirac, au final, c'est Juppé qui a gagné. Parce que Chirac, il a beau être un peu fatigué, ça je peux vous dire, pour l'avoir vu la semaine dernière, il est plus qu'un peu fatigué, il a quand même choisi Juppé et jusqu'au bout, c'est-à-dire que Hollande sauf si Juppé se présente, moi j'ai trouvé cette phrase extraordinaire, et Juppé, pour Juppé c'était, c'est la consécration, ça veut dire que le fils préféré c'est encore lui, voilà, il est encore le meilleur d'entre eux, et d'ailleurs dans le deuxième tome de ses mémoires, Chirac confirme le meilleur d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a sous la plume de Chirac...
Il a oublié le probablement.
Il enlève le probablement et il dit Alain Juppé est le meilleur d'entre nous. C'est-à-dire que fin de l'histoire, quoi. Au final, il a gagné. C'est-à-dire qu'au final, c'est Juppé qui, dans la lutte entre tous les fils de Chirac, détient finalement la palme. Mais, la limite, c'est qu'il n'est pas président de la République. Hein. Je veux dire, c'est quand même la limite de la victoire. Voilà. Mais en même temps, voilà, ce qui m'intéressait, c'était de raconter un homme qui n'est pas juste un type rigide, un Colin Froid ou Amstrad, enfin tous les surnoms aimables dont on l'a affublé pendant Amstrad. Et je trouvais qu'il y avait une histoire à raconter et alors je me suis retrouvée, ça il faut que je vous raconte ça parce que ça va vous paraître un peu fou, quand il était au ministère de la Défense, donc au moment où il retourne au gouvernement. Donc il est à la Défense et je me retrouve avec lui à aller faire un déplacement pour aller visiter des bâtiments de la marine au large de Toulon. Donc on prend un petit avion minuscule, enfin un Falcon 900, un avion de la République pour aller là-bas. Bon, on part à 6h du matin, etc. Et le soir, donc il visite des bâtiments de la marine toute la journée. Ça, c'était un truc épuisant. Le soir, on reprend l'avion pour rentrer à Paris. Il commande un whisky et il y a ses conseillers qui se mettent autour de lui et tout le monde déconne parce qu'ils sont tous épuisés. Voilà. Et il y avait dans Libération ce jour-là un article, une interview d'une gynécologue sur l'orgasme et qui disait, la gynécologue disait, c'était le titre de Libération, l'orgasme est de gauche. Et là donc, il y a un conseiller de Juppé, qui tout le monde boit du whisky sauf moi, mais le conseiller de Juppé sort Libération et Juppé rebondit sur le titre en disant ouais bon c'est vrai qu'on peut pas dire vraiment le contraire. L'orgasme est de gauche puisque la libération est de gauche. Bon, moi, je me dis, merde, c'est quand même un peu banal. On n'est pas dans un haut degré de la réflexion, ni politique.
Pas les nirvanas de
voilà,
la réflexion.
Donc, non, on ne peut pas dire non. Ça, en effet. Et il dit, non, mais l'éjaculation est de droite. Et là, c'est Juppé qui dit ça. Et là, moi, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et le whisky pouvait pas avoir encore fait effet. Il avait bu une gorgée de whisky. Je veux dire, c'était, si vous voulez, il n'y avait pas. Et c'était, je me dis, c'est pas possible. Juppé, l'éjaculation est de droite, etc. Et à ce moment-là, il y a une fumée blanche qui se répand dans la toute petite cabine. Hein. C'est un tout petit avion. Donc, fumée blanche dans la cabine. Mais fumée blanche dense. Les masques à oxygène tombent. Ouais, les masques à oxygène tombent. Et Juppé, il a fait des milliers de tours du monde. Il n'avait jamais vu des masques à oxygène. Les autres conseillers non plus, moi non plus. Donc aucun de nous n'avait jamais mis un masque à oxygène. Le commandant prend la parole en micro en disant mettez immédiatement les masques, il y a quelque chose qui a cramé, on a un circuit électrique défectueux, il y a quelque chose qui crame dans l'avion. À ce moment-là, c'est-à-dire que, si vous voulez, on a les yeux qui pleurent parce que on met les masques, donc Juppé met son masque, il aide tout le monde à mettre son masque et on est tous sur nos, enfin voilà, on se met dans nos fauteuils en attendant de voir ce qui va se passer. Il y a des dépressurisations qui se font, donc une, deux, trois. Les couvertures tombent, enfin les couvertures sortent, etc. Et on se dit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le petit avion bouge. Enfin, il faut imaginer qu'on n'est pas dans un gros Airbus. Hein. Et l'air est totalement irrespirable. Mais surtout, vous avez les yeux qui pleurent et on voit plus, enfin on voit presque plus rien. C'est tout rempli de fumée, tout blanc. Et Juppé enlève son masque à oxygène, mais pendant peut-être 10 secondes, en disant « Maintenant, quoi qu'il arrive, sachez que pour moi, l'orgasme aura toujours une odeur de brûlé. » Ouais. Oui, non, mais quand même, c'est-à-dire que ça, il faut quand même imaginer cette situation, ce sang-froid, ce truc où vous, à ce moment-là, enfin, moi, à ce moment-là, je veux dire, vous avez votre vie qui passe, quoi. Je veux dire, c'est vous avez un masque d'oxygène sur la tête... En plus, on nous a tous dit, enfin, j'imagine, bah, vous aussi, que quand les masques à oxygène tombent, c'est que c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est rare que les masques à oxygène tombent et que les gens puissent être là pour en parler. Voilà. Et là, le type, il est calé dans son fauteuil, il enlève son masque à oxygène et il vous dit, quoi qu'il arrive, sachez que pour moi, l'orgasme aura toujours une odeur de brûlé. C'est une scène, si vous voulez. Moi, je trouve qu'après, quand il dit « je veux pas être un personnage de roman », eh ben, il a qu'à pas dire des trucs comme ça, voilà. C'est-à-dire que je trouve que quand un homme qui dit des choses comme ça, d'abord, ne peut pas être tout à fait mauvais, mais surtout ne peut pas dire qu'il n'est pas romanesque du tout et ne peut pas et doit être portraituré autrement que comme un colin froid, hautain, odieux... Voilà, il est Juppé, c'est un type insupportable, mais en même temps, il a insupportable comme quelqu'un qui a une personnalité forte, des fêlures fortes, des ambitions, une ambition élevée, une haute idée de lui-même, très clairement un orgueil immensissime. L'orgueil, c'est vraiment ce qu'il a de plus énorme et de plus étincelant, et en même temps, bon, ça, c'est-à-dire que ça, si vous voulez, moi qui les fréquentent tous, au fond, les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup qui aient cette idée-là du service de l'État, de l'idéal politique, au fond. C'est-à-dire que c'est un homme qui, pour ça, appartient à une autre génération de politiques. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont pas là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet homme-là est regardé comme un dinosaure, mais pas seulement parce qu'il a l'âge qu'il a, mais parce qu'il croit en une certaine idée de la politique qui ne se fait plus du tout. Moi, ça m'intéressait, surtout à l'âge que j'ai précisément, d'aller regarder ça et d'aller raconter ça, parce que c'est une idée de la politique qui me plaisait. Voilà.
Madame, merci beaucoup.